Assalamu alaikum. Les agences des transferts de fonds brassent des milliers de devises étrangères. Selon l'association congolaise des banques, ces transferts de fonds ne passent pas par le circuit bancaire. De ce fait, cette situation porte ombrage aux activités des banques commerciales. Savon, sorgerie, huile, sorgerie, tous ces concepts ne sont plus que des souvenirs. La sorgerie n'est plus que l'ombre d'elle-même. Lui étant, les produits de cette entreprise inondaient les marchés de la République démocratique du Congo. Cette entreprise employait des centaines de personnes. Les pillages et la détérioration de l'économie nationale ont au fait d'entonner les requiem de la sorgerie. À quand le résurrexit? Disons, la résurrection assure. Prise en charge entièrement par l'État congolais, l'ISDER Tibashi fonctionne depuis quelques décennies. Le personnel académique et administratif ne perçoit pas encore le salaire majoré. Parallèlement à cette situation, il y a lieu de s'interroger sur l'impact de cette institution sur le développement de la province du Kassai occidental. Les pluies ont commencé, les sites érosifs ne sont pas encore stabilisés. Les habitants de ces zones font les frais des éboulements de terre à chaque tombée de pluie. Considérons le site de Mataba en Bise à Delvaux. Sur ces sites-là, plusieurs entreprises se sont succédées, mais encore aujourd'hui, on peut dire que c'est encore des solutions intermédiaires. Toutes ces questions vous touchent, vous concernent. Johnny Keshama est à la régie, Jean-Noël à la mise en onde, au micro Walter Bayering de Moulondi.
Okapi. Okapi à Kinshasa sur 103.5 FM.
De plus en plus, les transferts de fonds passent par les messageries financières. Attendez, les maisons des transferts de fonds. Mais il se fait que le nombre sans cesse croissant de ces messageries est très mal perçu par les banques commerciales de la République démocratique du Congo. Selon l'Association congolaise des banques, ACB en sigle, beaucoup de ces messageries ne sont pas rattachées au secteur bancaire. Cela porte donc préjudice sur la rentabilité des banques qui estiment d'ailleurs être livrées à une concurrence déloyale de la part de ces messageries. Marcel Gombo, qui nous avait présenté il y a quelques jours un sujet sur les fonctionnements de ces messageries financières, de transfert de fonds, si vous voulez, s'est intéressé à l'aspect du fait que ces messageries échappent au transfert bancaire. Marcel, bonjour.
Bonjour Walter.
Alors, comment ce secteur des transferts de fonds est-il organisé par rapport aux banques ?
Walter, les activités financières telles que les transferts des fonds sont réglementées par la Banque centrale. C'est donc au niveau de la Banque centrale qu'une messagerie financière doit obtenir son agrément. Et au niveau de la Banque centrale, les messageries financières sont considérées comme des intermédiaires financiers non bancaires.
Cela laisse sous-entendre qu'il y a également d'autre part des intermédiaires financiers bancaires.
Tout à fait Walter. Au niveau de la Banque centrale, il y a deux catégories d'intermédiaires financiers. Malheureusement, la Banque centrale, Walter, il était pratiquement impossible de délier la langue aux responsables en charge de ces services. Nous avons d'ailleurs également rencontré la même difficulté au niveau de la plupart de messageries financières où nous sommes présentés.
Eh bien, normal, ça ne devrait pas te surprendre, mon cher ami Marcel, lorsque l'on sait que lorsqu'il s'agit de parler argent, finance, les langues se délient difficilement, Marcel.
C'est bien cela, Walter. Les finances passent souvent pour des secrets des pharaons et beaucoup des responsables de ces messageries n'étaient pas d'humeur à se prononcer sur cette question. Et la plupart de ces responsables, un seul mot leur revenait sur la bouche qui était de dire qu'ils sont en règle et voilà tout. Mais néanmoins, Walter, un monsieur d'une messagerie de la place qui a requis l'anonymat et que nous avons joué au téléphone, a bien voulu nous donner quelques éléments d'explication que je vous propose de suivre.
Au niveau de la Banque centrale, il y a deux catégories d'intermédiaires. Il y a intermédiaires financiers bancaires et intermédiaires financiers non bancaires. Les messageries financières se situent dans la catégorie des intermédiaires financiers non bancaires. À ce titre-là, ils sont autorisés à faire les transferts conformément aux normes édictées, c'est-à-dire les instructions administratives qui sont rendues publiques par la Banque centrale. Toutefois, en tant qu'intermédiaire financier autorisé, ils reçoivent de la Banque centrale un agrément les autorisant à opérer en tant que messagerie financière. Bon, il se passe un problème vrai dans notre pays, que ce soit l'échange, que ce soit les transferts de fonds, ces opérations réalisées par beaucoup de gens. Et je crois que le problème, c'est au niveau de l'organisation tout simplement. La Banque centrale n'est pas encore arrivée à mettre de l'ordre dans le secteur, que ce soit le secteur du change, que ce soit le secteur des transferts de fonds. Étant donné que tout le monde, compte tenu du désordre qui est sur le terrain, tout le monde se livre à ces opérations-là. Mais parmi ces gens, il y a des gens qui sont sérieux, qui sont autorisés, qui ont un agrément en bonne et due forme et qui sont reconnus par la Banque centrale.
Oh pardon, j'ai avalé de travers de la salive. Désolé. On vient de l'attendre, donc ce monsieur estime que le secteur est encore à ce jour mal organisé, mais au moins il y a des messageries qui fonctionnent à bonne et due forme, c'est-à-dire en conformité avec la réglementation de la Banque centrale. Mais Marcel, dites-nous, qu'est-ce que pensent ces agences, les messageries financières, de la concurrence déloyale dont se plaignent certaines banques commerciales à travers la République démocratique du Congo?
À ce sujet, je vous invite à suivre encore une fois le monsieur que nous avons joué au téléphone et qui pense que c'est plutôt à la Banque centrale de trouver des solutions à ce problème. On l'écoute.
Que ce soit nous, que ce soit les messageries financières, que ce soit les banques, nous tous, nous sommes régis, nous sommes sous la gestion de la Banque centrale et la Banque centrale publie les instructions administratives appropriées à chaque catégorie d'intermédiaires. Bon, c'est dire que il faut maintenant poser les problèmes au niveau de la Banque centrale, que la Banque centrale revoie les instructions administratives qui nous gèrent et les messageries et les banques commerciales. Et tout ce travail a été fait, toutes les propositions ont été formulées à la Banque centrale. La Banque centrale connaît du moins qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Je crois que les problèmes, il ne faut pas l'attaquer en aval, il faut l'attaquer en amont. Voyez les problèmes dans son ensemble.
Voilà, on peut dire vraiment grand merci à ce monsieur qui a accepté de nous fournir ces quelques informations. Nous aurons un peu plus de détails, du moins côté banque, avec monsieur Bokele, qui est responsable de la trésorerie à la Banque internationale pour l'Afrique au Congo. Avec lui, nous allons aborder toutes ces questions un peu plus en détail, parce que il y a quand même des milliers de devises étrangères qui passent par les agences de transfert de fonds, et il y a lieu qu'on sache comment ça se passe pour que l'État puisse en bénéficier. Pour l'heure, Marcel Ngombo Mbala, merci beaucoup d'avoir essayé de délier quelques langues. On va encore en délier tout à l'heure avec notre responsable d'une banque à Kinshasa.
Merci Walter et au revoir à tous.
Au revoir. Merci d'être là au Café Action, le premier sujet du magazine. Aujourd'hui, nous parlons en ouverture de ce que certaines banques commerciales qualifient des concurrences déloyales en faisant allusion aux agences de transfert de fonds. On sait, ces agences brassent des milliers de devises étrangères qui ne passent pas toujours par le système bancaire. Pour commenter ces sujets, nous recevons Monsieur Bokele Botetti. Bonjour Monsieur Bokele.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la trésorerie à la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, le Congo-Kinshasa, sous-entendu.
Oui.
Alors, nous sommes heureux de vous avoir là avec nous dans ce studio. La première question que nous vous posons, c'est celle de savoir, est-ce que c'est vrai que les banques commerciales se plaignent d'une concurrence déloyale des agences de transfert de fonds?
Oui, en fait, nous soulevons un problème qui est réel. On se plaint, bon, on va dire ça entre parenthèses, on se plaint que certaines sociétés de transfert d'argent, de transfert de fonds, soient totalement illicites et illégales, en plus de celles qui sont déjà légales.
Mais à votre avis, où est le problème à ce niveau?
Bon, on va pas totalement leur jeter la pierre, mais il se fait qu'à une certaine époque, la confiance avait peut-être disparu dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, on est en train, avec toutes les actions du gouvernement Massamou et de l'association congolaise des banques, de remettre la barre à niveau. Et les gens se sont peut-être un peu enfermés dans un système illicite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés de transfert de fonds. d'autres affiliés à des banques comme MoneyGram ou Western Union. Certaines autres qui ont pignon sur rue, je peux citer certains noms que nous connaissons tous, Mr. Cash, Sophicom, et certaines autres qui sont complètement illégales. À l'époque, nous avions le système des phonies, je pense. Si vous connaissez, vous allez vous déposer votre argent. Bon, ces systèmes-là ne payent pas de taxes, ne payent pas de redevances contrôle de change, ne sont pas assujettis aux mêmes contraintes que les banques. Nous sommes obligés de payer des impôts, de payer des redevances, et ça devient, ça occasionne un coût beaucoup plus lourd. Alors, les clients nous demandent, mais comment ça se fait que Western Union est plus cher que telle ou telle autre société de transfert de fonds?
Par rapport au taux de transfert.
Voilà, par rapport au taux de transfert. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire? On peut leur dire que nous payons les taxes et les impôts qui font qu'on reconstruit le pays aujourd'hui, et elles ne payaient pas ces taxes et ces impôts. Donc c'est là que se situe notre principal problème, parce que nous perdons la clientèle et à chaque fois nous sommes l'objet de plaintes, de taux excessifs, de clients qui reviennent pour dire que j'ai trouvé mieux ailleurs, alors que ces entreprises-là ne payent pas de taxes et que l'État les connaît.
Vous avez soulevé une question assez importante au départ, ce qui a eu cette perte de confiance des clients dans les banques, parce que c'est d'abord, les banques ne sont pas implantées à travers tout le territoire, alors que les agences de transfert de fonds couvrent parfois jusqu'à une trentaine de villes, c'est ce qui rapproche les bénéficiaires des fonds, non?
Nous sommes en train d'y arriver, petit à petit. Vous savez, partout nous allons, comme moi je le dis, il faut qu'il y ait un intérêt. Où partout on peut gagner de l'argent, nous y allons, même très peu. Mais il se fait que certaines contraintes font que la marge soit minoritaire. Nous sommes là, nous sommes obligés d'acheter un bâtiment, de faire venir du personnel, de les payer en conséquence, et tout cela pour transférer de l'argent ou récolter de l'argent à travers le pays. Ces phonies-là, ou bien ces sociétés financières ou de transfert de fonds viennent, elles ont un téléphone portable, une personne qui est dans une table, les fonds ne sont pas sécurisés, pas de coffre, nous sommes obligés d'acheter des coffres parce que nous avons une réglementation qui nous régit, diffusée par la Banque Centrale. Et nous sommes obligés d'avoir certains préalables que ces sociétés n'ont pas, et n'ont même pas de besoin de le faire. Vous arrivez, vous rentrez dans un bureau, il n'y a pas de coffre, il y a un tiroir fermé avec une clé, une table que n'importe qui peut partir avec, ces fonds ne sont pas sécurisés. Le jour où il y a un problème, personne ne peut se plaindre parce que bon, l'état de droit est en train de reprendre ses droits, mais légèrement.
Un client d'une agence de transfert de fonds n'a pas de garantie pour se faire rembourser son argent si jamais il y a quelque chose qui arrive.
Tout à fait. Des fois même, on ne vous remet aucun document, on vous remet un code, on vous demande d'appeler, et vous appelez la personne, vous lui transmettez juste le code, cette personne arrive, on n'a pas besoin d'identité, on ne demande pas de pièce d'identité. Quand vous arrivez à Western Union ou à MoneyGram, on exige une pièce d'identité, on exige un mot de passe, on exige de connaître le montant, on vous remet un bordereau avec un code certifié qui est vérifiable partout parce que ce système est établi par Western Union International et MoneyGram International. Donc n'importe quelle personne qui veut faire de l'audit sur les comptes de Western Union ou de MoneyGram peut le faire du moment qu'elle a une habilitation. Mais ces phonies-là, combien elles brassent? Quel pourcentage qu'elles prennent? Ça on le sait. Mais combien elles brassent? D'où viennent les fonds? Comment sont transférés les fonds? Ça on ne le sait pas.
Mais il y a un problème, parce que je dois dire aux auditeurs que vous êtes ici à double casquette, non seulement au niveau de la BIAC, mais aussi vous occupez un poste de responsabilité au sein de l'Association congolaise des banques. C'est principalement à ce titre-là.
Ouais.
Et donc, ce problème, par exemple, il y a des banques qu'on a vu naître dans ce pays qui ont fait faillite après, et les personnes ont été remboursées presque à 30% des fonds qu'ils avaient déposés dans ces banques-là, ce que les banques n'offrent pas non plus toutes les garanties.
Bon, en prenant l'association congolaise des banques, il y a certaines banques qui ont une durée de vie assez extraordinaire. Je pense pour la BCDC qui est là depuis plus de 100 ans, la BIAC qui est là depuis 72, qui n'a jamais fermé ses portes ou refusé un paiement. Je prendrai l'UBC, je peux prendre certaines autres banques de la place qui ont une durée de vie assez longue et sur lesquelles je pense qu'on n'a jamais eu de problème. Il y a certaines banques qui sont apparues, auxquelles les clients ont fait confiance, c'est vrai, mais il faut savoir séparer livrer du bon grain.
Ces banques-là aujourd'hui
sont fermées, d'autres continuent de vivre normalement, d'autres sont même créées. Alors, on ne peut pas toujours savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais, mais je pense que le secteur bancaire est en train petit à petit de se relever. Il y a des efforts qui sont faits conjointement avec la Banque Centrale, et c'est le plus important aujourd'hui.
Prenons le cas de la BIAC, la Banque Internationale
Pour l'Afrique
au Congo, dont vous êtes un des responsables. Il y a l'autre problème, c'est qu'avant que j'ouvre un compte à banque, j'ai déjà eu à le faire. Hein. Évidemment, on me demande, bon, il faut avoir versé 1 000 $, il faut un parrain, il faut tout ça, beaucoup de conditions comme ça. Ouais. Où est-ce que le Congolais moyen va trouver 1 000 $ pour mettre dans son compte un premier dépôt?
Ben voilà, justement, c'est pour ça que, toujours à l'écoute de la population congolaise, nous offrons des produits. Nous offrons certains produits, certains types de produits. C'est vrai que les banques aujourd'hui sont butées à un problème de rentabilité. Alors, on demande, c'est vrai, des dépôts en cash. C'est pour connaître la crédibilité du client, parce qu'aussi, on a vu des clients qui sont venus, qui ont ouvert un compte en banque, qui n'a jamais fonctionné. On fait un premier dépôt, on retire tout l'argent, et puis après, on ne revient plus jamais. Alors, on se met de plus en plus à l'écoute de la clientèle. Nous lançons des produits, la BIAC, comme d'autres banques, lancent des produits. Parce que là aussi, je suis comme ce double casquette dont je dois parler un peu de tout le monde.
Oui, évidemment.
Mais je connais un peu mieux la BIAC, c'est vrai. Mmh. Alors, on lance des produits. Aujourd'hui, vous avez des cartes de crédit sur base de votre compte en banque. Ça, c'est à la RAO Bank.
Mastercard,
c'est opérationnel. Mmh. Vous pouvez y aller, vous allez les servir. Vous serez servi. Nous avons la BIAC, maintenant nous lançons le compte épargne qui commence à 300 $.
Bon, c'est un effort. Compte épargne, ça veut dire
compte épargne, vous venez, vous faites un dépôt de 300 $ minimum et nous vous le rémunérons. 2% l'an. C'est un début. Concrètement, vous prenez, vous déposez 300 $ et à la fin de l'année, vous avez un bénéfice sur ce dépôt que vous avez mis chez nous, qui est retirable à n'importe quel moment, sur lequel on ne prend pas de frais, sur lequel vous n'avez besoin d'aucun parrain. Vous venez juste. Vous déposez votre argent, on le comptabilise, on vous donne un numéro de compte et les intérêts commencent à courir pour vous. Nous, on ne prend rien là-dessus. Vous déposez et nous donnons un pourcentage créditeur.
Bon, vous parlez des cartes de crédit. Quel est l'avantage de l'avoir?
Bon, c'est une facilité de paiement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un des problèmes principaux que nous avons au Congo, on ne fonctionne qu'avec du cash. Que ce soit les grandes entreprises comme les petits particuliers. Avec tous les risques qu'on a au niveau de l'insécurité, on peut vous arracher votre sac, on peut vous dépouiller, je peux dire. Mais avec une carte de crédit, vous arrivez, vous devez signer avant que le débit soit opérationnel sur votre compte. C'est un moyen de sécurité.
Mais il y a aussi des cartes de débit.
Bien sûr.
Est-ce que vous avez ce service-là?
Pas encore, nous sommes en train de mettre ça en place avec différentes bandes de la place pour avoir cette carte de débit qui sera, comment je peux dire, c'est une carte que vous venez créditer au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte, vous venez chez nous, vous dites bonjour, je m'appelle monsieur Intel.
Walter.
Voilà, monsieur Walter, je m'appelle monsieur Walter, j'ai 100 $, est-ce que je peux avoir une carte de débit? Nous créons une carte de débit pour vous avec valeur de 100 $. Vous retirez vos 100 $, vous avez 50 $, vous revenez avec, vous avez 20 $, et on recrédite, et ainsi de suite. Autant de temps que vous voulez, à durée de vie illimitée. Mm-hmm. Donc on est au fur et à mesure en train de se mettre au niveau de l'intérieur, de commencer à ouvrir des petites agences, des petites succursales, et ainsi de suite. Alors, Western Union, je crois que c'est implanté beaucoup plus nombreusement que n'importe quelle autre agence, mais la contrainte principale, c'est que Western Union coûte cher. Western Union coûte cher, pourquoi? Parce qu'on a d'interminables taxes à payer sur cela et qu'on doit faire répercuter le coût sur le client. C'est pour ça que ça coûte cher. Nous sommes en négociation d'ailleurs à ce niveau-là avec les services fiscaux pour voir un peu dans quelle mesure aider la population.
Est-ce que ça avance ces négociations pour essayer d'alléger les charges fiscales?
Lentement, mais nous espérons conclure.
Mais si les charges fiscales sont allégées, quelque part aussi, l'État va se dire on va pas gagner là-dedans. Quoi.
Bon, il ne faut pas voir le problème comme un manque à gagner par rapport à une clientèle limitée. Nous prendrons le potentiel de ce qui n'est pas encore légal et nous l'ajouterons. Ça veut dire qu'on diminue les coûts pour avoir beaucoup plus de personnes. Donc on récupérera à la longue de toutes les façons.
Le problème pour ne parler que par exemple de la BIAC, vous êtes à Kinshasa, à Lubumbashi, à Matadi et à Goma, simplement à Goma. Ouais. Bon, vous n'êtes pas à Kisangani, vous n'êtes pas à Mbandaka, dans le Kassai.
Voilà, nous sommes en train d'y arriver. Alors le Kassai, c'est prévu, justement.
Les autres messageries sont déjà implantées partout et on préfère utiliser ces services.
Les autres messageries, ils sont déjà. Les autres messageries, ils sont déjà. Nous sommes, pour prendre le cas par exemple de Western Union, nous sommes un peu plus que sur 4 points de la RDC. Nous sommes à l'Équateur aussi. Nous sommes à Kananga, nous sommes bientôt à Mbujimayi, en tant qu'agence BIAC et en tant que Western Union. Mais Western Union, c'est 3 banques. Et ces autres banques-là sont implantées dans les villes dont vous parlez, comme Mbujimayi, comme Goma, comme Bukavu, comme Kisangani, et ainsi de suite.
Mais il y a quelque chose qu'on a vu, dont on parlait tout à l'heure. On va vous poser ça. C'est des auditeurs qui posent des questions parce que c'est ouvert en fait aux auditeurs qui appellent au 081 890 68 90. Faisons état d'ailleurs de la question de Robert Mbaki qui vient nous appeler de la commune de Selimbao à Kinshasa. La question est celle-ci, et vous êtes adressé à Monsieur Bokele. Est-ce que les banques font un effort pour se rapprocher des messageries?
Bon, l'effort doit être fait communément. Moi, je pense que ces messageries sont là. Elles ont exploité un créneau que nous ne pouvons pas exploiter. Ça veut dire l'absence de législation les concernant. Parce que celles dont je parle principalement, ce sont les messageries illicites, celles qui ne sont pas reconnues comme messageries financières. Il faut un agrément de la Banque centrale. Celles qui sont reconnues comme messageries financières, des efforts sont faits conjointement pour arriver à travailler ensemble. Si pas au moins à travailler ensemble, au moins que celles-là soient imposées autant que nous. D'où les frais, vous verrez directement que le jour où ce sera décidé, les frais seront quasiment les mêmes que Western Union ou que Moneygram. Il y a un effort qui est là, qui est fait, de rapprochement, de légalisation de la situation, parce que bon, ici, nous savons tous qu'au Congo, le problème, c'est des fois le droit qui n'est pas très suivi. Alors on fait cet effort-là de remettre tout le monde dans le chemin de la loi.
Remettre tout le monde en chemin de la loi, c'est ce qu'il faut faire. Mais bon, on va finir par cette question. Compte épargne et conso, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement à la BIAC. Disons, supposons que moi, Walter Molondi, je vais déposer chez vous 300 dollars. À partir de combien de jours je peux espérer avoir un intérêt et de quel ordre?
Ben, l'intérêt est directement perçu dès le dépôt. Dès l'ouverture de ce compte et conso, compte épargne et conso, de 300 dollars, il y a un intérêt qui est versé dessus, de 2% par an. Ça ne paraît pas énorme, mais c'est un compte qui est prévu à long terme. Le compte épargne, ce n'est pas un compte que vous ouvrez pour une année. C'est un compte que vous ouvrez pour vos enfants, pour vos descendants. C'est une sécurité pour eux. Vous ouvrez 300 dollars aujourd'hui. À la fin de l'année, ça ne fera, à la fin d'une année, ça ne fera peut-être que 360 dollars. Mais à partir de 360 dollars, il y aura un intérêt encore de 2%. Et ainsi de suite. Alors, au bout de 10 ans, je pense que la somme sera assez conséquente et que ça permettra à vos enfants peut-être de payer leurs études, peut-être de commencer, ne fût-ce qu'un commerce, ainsi de suite.
Mais si moi j'ai besoin de retirer quelque chose là-dedans, ça
Vous
va baisser.
retirez, vous retirez directement votre argent, c'est retirable à n'importe quel moment. Mais bien sûr, si vous retirez
Mais
de
ça
l'argent, ça
baisse.
baisse. Le pourcentage reste le même, mais le pourcentage est recalculé sur le montant que vous laissez. Le minimum étant bien sûr 300 dollars et le maximum 20 000.
Et voilà, Monsieur Bokele Boteti, je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes au secrétariat
Oui, secrétaire de l'Association
le
congolaise des
secrétaire de
banques.
l'Association congolaise des banques et puis responsable de la trésorerie à la Banque internationale pour l'Afrique au Congo. Vous êtes à Kinshasa, à Lubumbashi, à Matadi et Goma. Donc vous venez de lancer ce compte d'épargne et conso, minimum 300 dollars avec 2% d'intérêt par an. Bon, voilà pour l'info service à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Enfin, nous, on est plus implantés que vous dans tout le Congo et
Ça viendra, ça
dans le monde
viendra.
entier sur
Ça
Internet.
viendra. Déjà au
Nous
Congo,
avons
ça
appris
viendra.
que des gens peuvent ouvrir leur compte par Internet à partir de la bille.
Bien sûr, il y a aussi le service BIAC Online qui est ouvert 24 heures sur 24 à travers toute la planète aussi. Donc, vous pouvez consulter votre compte, l'ouvrir et passer des
Et sur quel
opérations
site?
bientôt.
C'est quoi le site
BIAC, www.biac.cd. Tout ça en minuscules.
On va l'essayer tout à l'heure hein, pour voir si ça marche.
Pas de
Merci.
problème.
Merci, monsieur Bokele, d'être venu et espérons que prochainement vous reviendrez nous expliquer ça parce qu'il faut reconnaître que la culture bancaire a disparu de la plupart des Congolais.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on offre des services comme ce compte épargne et conso, comme ces cartes de débit, comme ces cartes de crédit pour justement nous rapprocher un peu plus de la population et retirer la culture du cash.
À suivre.
Merci beaucoup.
Bonne journée à vous.
À vous aussi.
Au Capi-Action, deuxième sujet du magazine. Aujourd'hui, nous nous rendons à Kisangani. Vous avez souvent entendu, de mémoire, ça vous revient. Savon, sorgerie, les huiles, sorgerie et bien d'autres produits. Tous ces concepts ne sont plus que des souvenirs. La sorgerie n'est plus que l'ombre d'elle-même. Il eut été temps, les produits de cette entreprise inondaient les marchés de la République démocratique du Congo. Cette entreprise employait des centaines de personnes, les pillages et la détérioration de l'économie nationale ont tout fait d'entonner le requiem pour la sorgerie. À quand
le Resurrexit. Nous venons à Kisangani, Dorcas Kankou. Bonjour Dorcas.
Bonjour Wacher.
Pour commencer Dorcas, que signifie sorgerie?
La sorgerie, c'est une société de réalisation, de gérance et d'investissement. À l'époque, Walter, elle avait pour objet la promotion, la transformation ainsi que la commercialisation de produits agricoles.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur les activités de la sorgerie? Rappelons qu'elle a été créée depuis 1982.
Tout à fait. Cette société avait plusieurs activités. Une usine de fabrication de savon, de l'huile de table, de la margarine, des bonbons, des dentifrices, des produits pharmaceutiques, du soya, extrait du soya, un produit très nutritif pour les enfants. Elle disposait également d'une scierie. Elle fabriquait seule de barges pour son déplacement sur le fleuve. En plus, elle fabriquait également des plastiques pour l'emballage de ses produits.
Mmh. On le sait, la main-d'œuvre était aussi également très importante à la sorgerie, à l'époque où elle tournait à fond, comme on peut dire.
Absolument. C'était plus de 1000 personnes qui travaillaient là, mais avec la guerre, ce chiffre s'est réduit petit à petit. Et aujourd'hui, la sorgerie ne compte qu'une centaine d'agents. Mmh. Un des agents que nous avons rencontré à la sorgerie nous a déclaré ceci.
Reine Abanda qui nous a depuis 82. Nous avons été chauffeurs. 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 Pour tout le monde, il passe des cris de tomba. Ici, il peut aussi la malamouté. Pour bazan matière, bazan de bain en fouta, n'y a pas de transport. Bon, ici, les autres m'ont malamouté. Où est-ce que tu te fous de ma pète? Namoni, que Zali, que Nemé Moukondia, comment que ce qui va communiquer à Kosari, ça pourra démarrer juste pour la bande au fouta bisou.
Voilà, cette personne parle de Mokonzi Alekaki. Il s'agit au fait du président de la République, Joseph Kabila, qui lors de son séjour à Kisangani est parti visiter les ruines de la sorgerie. Et puis, donc, il s'est entretenu avec la Fédération des entreprises du Congo, section de la province orientale. Il a donc discuté avec Monsieur Raymond Mokeni, président provincial de la FEC. Et ce sera lui l'invité tout à l'heure. On va chercher à savoir ce qui se sont dit au sujet notamment de la relance de certaines entreprises. On sait bien que Kisangani, c'était la sorgerie, c'était aussi la sauteski, hein, Dorcas Kankou.
Effectivement, il y avait la sorgerie, il y avait la sauteski, il y a pour l'instant aussi la bralima.
Mm-hmm. Voilà, autant d'entreprises qui ont employé beaucoup de gens, mais qui ont des sérieux problèmes actuellement. On va essayer de peut-être d'apprendre quelque chose d'intéressant en discutant avec Monsieur Raymond Mokeni qu'on va recevoir dans quelques instants. Vous nous écoutez à Kisangani, à Isiro et vraiment dans d'autres centres commerciaux de la province orientale et pourquoi pas à Bounia aussi même. Poser des questions, ce serait une occasion de savoir ce qui se passe en ce qui concerne la relance économique de la province orientale. Nous aurons le président de la FEC en direct tout à l'heure. Dorcas Kankou, bonne journée à Kisangani, à bientôt.
Merci.
Au revoir. Au Capi Action, nous sommes en mesure de commencer cet entretien avec le président de la FEC pour la province orientale, Monsieur Raymond Mokeni, bonjour.
Bonjour cher ami, bonjour de Kisangani.
Merci beaucoup d'être disponible pour ce direct sur Radio Okapi. Nous parlons de la situation de la sorgerie qui est agonisante, ou si vous voulez presque, il y a un terme médical qui va me revenir tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé à la sorgerie pour que ça arrive à ces situations?
Eh bien, écoutez, avant de vous répondre d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord vous dire que la visite du président de la République dans la province orientale et plus spécialement dans la ville de Kisangani est tout à fait d'une grande d'une grande importance, dans ce sens que cela fait pratiquement plus de 14 ans qu'aucun chef de l'État n'est arrivé, je veux dire un chef de l'État en exercice, n'est arrivé à Kisangani.
Oui, monsieur Raymond Mokani, donc, alors nous allons arriver à cet aspect.
Qui a cimenté pratiquement la fin de la guerre et a consacré la réunification du pays. Mais en même temps, cette visite avait joué un rôle tout à fait symbolique et historique. Elle a donc été pour nous un signal fort. Et cette visite a suscité beaucoup d'espoir dans la province orientale qui est décidée d'être considérée comme le levain qui doit faire monter le pain économique national.
Mais
et donc, c'est dans ce sens que le président de la République est revenu pour visiter l'entreprise que vous avez citée, notamment la sorgerie. Vous savez que la sorgerie est victime de plusieurs situations qui s'est déroulées chez nous à Kisangani, et notamment les différentes guerres. Mais en même temps, cet ajustement politique qui avait commencé depuis 1990 a pratiquement frappé de plein fouet toutes les entreprises de la province, et notamment la sorgerie qui aujourd'hui ne sait plus ouvrir ses portes pour la simple raison que l'entreprise n'a pas su renouveler son outil de production.
Mais pourquoi?
Compte tenu de la diminution de son capital et de la vétusté de son matériel.
Monsieur Raymond Mokani, vous dites que son capital a diminué, que le matériel est devenu de plus en plus vieux. Pourquoi le capital de la sorgerie avait-il diminué?
Vous savez, une entreprise, au début de ses activités, possède un capital. Mais il y a des paramètres extérieurs à l'entreprise qui ronge pratiquement le capital, et notamment la dépréciation monétaire qui a pratiquement élu domicile chez nous depuis 1990. Et avec cette situation, aucune entreprise n'a pu trouver des mécanismes internes pour sauvegarder son capital. Et des deux, il y a notamment l'absence de crédit que les banques normalement devraient octroyer aux entreprises pour essayer de consolider l'assiette financière de l'entreprise. Donc les deux paramètres, pratiquement le pays était assiégé par une inflation régulière et galopante. Et en plus, il y a eu donc ce manque de crédit. Beaucoup d'entreprises ne pouvaient pas échapper à ces deux grands paramètres.
Oui, en visitant la sorgerie tout récemment, est-ce que le président de la République a promis quelque chose? Qu'est-ce qu'il a promis de faire?
Bon, le président de la République a constaté notamment que une des causes qui gêne le fonctionnement de cette entreprise, en dehors des deux paramètres que je venais de citer, il y a notamment la navigabilité difficile sur le fleuve. Cette entreprise, la sorgerie, est productrice des huiles de palme et de savon, donc elle dépend pratiquement du fleuve pour l'approvisionnement en huile végétale. Et aujourd'hui, ce fleuve est rempli de saletés de tous ordres, des obus et autres, et cela fait pratiquement plus de 15 ans que, tenez-vous bien, 15 ans que ce fleuve n'a jamais été nettoyé, et donc c'est une des difficultés énormes. Il y a des deux. Les barges de cette société sont complètement usées, et donc il lui faudra des capitaux neufs. Il faudra absolument que la régie des voies maritimes puisse envisager, dans un bref délai, le dragage du fleuve pour permettre l'approvisionnement régulier non seulement des industries locales, mais d'autres entreprises, notamment les entreprises pétrolières et les commerçants.
Donc on comprend que au-delà d'apporter juste des solutions, le président est venu constater et on commence à s'interroger si ce n'est pas pour des raisons des campagnes électorales alors que nous n'y sommes même pas encore.
Ah non, pas du tout, ce n'est pas une campagne électorale. Vous savez, il ne faut pas attendre les élections pour commencer à cerner les problèmes économiques du pays. Et moi, je crois que la visite du chef de l'État et d'ailleurs la visite de plusieurs ministres qui viennent régulièrement à l'intérieur, ce n'est pas une propagande. C'est surtout pour palper de doigts les réalités, pour permettre l'après-élection, pour que après les élections, que toutes les données soient prêtes pour essayer de résoudre la problématique de nos problèmes économiques. Il ne faut pas attendre les élections pour commencer à inventorier les problèmes. Moi, je crois que la visite du chef de l'État et par ailleurs des autres ministres qui viennent et d'autres vice-présidents de la République qui viennent à l'intérieur, c'est justement pour palper des doigts, pour essayer d'inventorier les problèmes qui se posent à notre économie, pour que après les élections, lorsqu'un gouvernement responsable viendra ou pourra élire domicile après les élections, que ce gouvernement puisse déjà trouver sur sa table un inventaire exhaustif des problèmes économiques qui se posent au pays. Depuis... Donc il ne faut pas attendre les élections pour essayer d'inventorier les problèmes.
Monsieur Raymond Mokeni, depuis que toutes ces autorités ont commencé à défiler, hein, j'utilise bien le mot défiler, enfin qui s'en gagne pour, selon ce que vous venez de dire, inventorier les problèmes, y a-t-il eu au moins ne serait-ce qu'un seul problème qui a été résolu? Ou qui envoie de l'aide?
Notamment, il y a parmi les problèmes, nous avons constaté la signature de plusieurs décrets au niveau du gouvernement des transitions pour essayer de mettre fin à certaines tracasseries dont sont objets les opérateurs économiques. Et il y a notamment, et je préfère ici l'épingler tout haut, il y a notamment l'organisation de la FENAT 2004 qui s'est organisée à Kinshasa dernièrement, pour essayer de résoudre tant soit peu certains problèmes qui se posent actuellement aux opérateurs économiques. Et vous n'allez pas non plus me dire que l'organisation de la FENAT était une propagande. Vous savez que dans cette FENAT, dans ce Forum économique national, nous avons obtenu pas mal de choses, et notamment, il nous a été informé la mise à disposition d'une enveloppe de 42 millions de dollars pour commencer l'indemnisation de certains opérateurs économiques. Donc, ces visites absolument ne servent à rien, mais ces visites apportent quelques petites solutions aux problèmes actuels, aux problèmes économiques actuels.
Monsieur Raymond Mokeni, vous serez d'accord avec nous et avec cet auditeur qui s'appelle Robert Mbaki, qui pense que beaucoup d'originaires de Kisangani, la province orientale, préfèrent investir ailleurs que dans la province orientale. Ils en partent d'ailleurs.
Vous savez, le mouvement de désinvestissement dans la province orientale n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé bien avant. Vous savez que l'investissement doit absolument être protégé par des mécanismes internes et extérieurs. La province orientale, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, a connu pas mal de guerres et a connu pas mal de déstabilisations. Et aucun investisseur ne peut rester rester comme cela devant ce mouvement d'instabilité. C'est ainsi que nous avons connu beaucoup de mouvements de désinvestissement, tant au niveau extérieur, c'est-à-dire des investisseurs étrangers, qu'au niveau des investisseurs internes. Mais aujourd'hui, notre cheval de bataille est de faire comprendre à nos compatriotes que notre relance économique doit partir d'abord des entreprises qui existent, c'est-à-dire des entreprises qui ont fait preuve de beaucoup de bonne volonté et qui sont restés sur place, et que donc nos efforts doivent être focalisés aujourd'hui à remettre en état ces infrastructures ou ces entreprises. Mais en même temps, nous essayons de faire comprendre à nos opérateurs économiques que l'investisseur étranger, c'est bon pour notre pays, mais nous devons absolument et avant tout penser à investir nous-mêmes en fort de ce pays. Donc l'investissement intérieur doit compter avant tout, et l'investissement extérieur doit venir peut-être à ajouter un plus à ce qui se fait par nous-mêmes. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a eu beaucoup de mouvements de désinvestissement, mais je vous ai dit pourquoi. Aucun opérateur économique ne peut sacrifier son outil de production devant les crépitements des balles, des bombes, la destruction et ainsi de suite.
Mais alors, monsieur Raymond Mokeni,
un jour cette province sans crépitement des balles, ce pays vivre dans la paix, pour que absolument ce que nous appelons les hirondelles internationaux puissent venir et investir dans notre pays. Je veux dire, ces investisseurs extérieurs viennent investir.
Mais
et
oui.
Cela ne peut se faire que dans une paix totale et durable.
Mais est-ce que vous avez une garantie? Est-ce que vous avez une garantie qu'il y aura la paix, qu'il y aura la sécurisation des investissements au point de vue par rapport à la situation générale du pays et surtout par rapport à si vous voulez, à la politique fiscale?
Bon, écoutez, ce qui se fait déjà n'est pas à minimiser. Nous avons noté pratiquement la promulgation d'un nouveau décret que le président de la République a signé en matière de code et des investissements. Vous savez qu'il y a eu la création de commerce, de tribunaux de commerce. Et tout cela fait que l'opérateur économique commence petit à petit à ausculter le ciel institutionnel et constate que certaines mesures sont prises dans ce sens. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut encore beaucoup d'efforts, beaucoup de bonne volonté pour asseoir tout à fait une sécurité qui soit indispensable à l'épanouissement et l'investissement.
Puisqu'il y a beaucoup peut-être d'opérateurs économiques éventuels qui pourraient venir investir par là, dans quel domaine est-ce qu'ils peuvent-ils espérer investir à Kisangani et dans le reste de la province orientale?
Ah, alors ça c'est une question fabuleuse. Je pense que les domaines prioritaires aujourd'hui, ce sont les routes. Je crois que les opérateurs économiques, tant nationaux qu'internationaux, doivent absolument ausculter ces domaines et constater qu'aujourd'hui, le secteur de route constitue un gisement formidable et que quelqu'un, une personne ou une entreprise qui investirait dans ces sens et qui organiserait le péage sur les routes gagnerait pas mal d'argent. Il y a aussi, et non le moindre, le secteur hôtelier. Vous savez qu'aujourd'hui, il se passe un problème terrible à Kisangani. Il n'est pas facile de dormir dans une chambre d'hôtel à Kisangani et de trouver une chambre d'hôtel agréable où l'eau courante coule régulièrement, où il y a de l'électricité toute la nuit. Et donc, quelqu'un qui investirait dans ce secteur pourra faire pas mal d'argent. Évidemment, il y a tout un tas d'autres secteurs, des petites et moyennes entreprises qui peuvent absolument être réactivées. Hein.
Voilà, Monsieur Raymond Mokeni, je rappelle que vous êtes président de la Fédération des entreprises du Congo pour la province orientale. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. J'espère que vous serez disponible pour que d'ici quelques semaines, quelques mois, nous fassions le point avec vous sur les possibilités d'investissement dans la province orientale. Je vous souhaite plein succès dans la réalisation de vos projets.
Absolument, tout le plaisir était pour moi et je remercie absolument votre radio pour cette initiative.
Merci beaucoup, au revoir. La deuxième partie du magazine Capi Action démarre avec Willem Lungamba qui est à la mise en onde, qui remplace Jean-Noël qui s'en est allé, qui nous reviendra demain évidemment pour la première partie du magazine. Nous commençons par Tibachi, nous sommes au Kasaï occidental, pour parler de l'Institut supérieur de développement rural ISDER Tibachi, qui est une institution d'enseignement supérieur. Cette institution fonctionne depuis de longues années, en tout cas une vingtaine. L'ISDER Tibachi est pris totalement en charge par l'État congolais. En clair, le personnel scientifique, administratif et académique est payé par le gouvernement. Il perçoit régulièrement son salaire. Seulement, voilà, depuis l'augmentation des salaires en faveur des enseignants, cette institution, l'ISDER Tibachi donc, mieux les enseignants de l'ISDER n'ont rien perçu du complément de salaire. Comment peut-on expliquer cet état de choses alors que, selon certaines informations, les autres institutions de la place ont bénéficié de cette augmentation? Pour comprendre l'imbroglio ou pour donner des réponses à ces questions, nous joignons Julien Nyamoni à Kananga. Julien, bonjour.
Bonjour Walter, bonjour à tous.
En dernière nouvelle, le corps enseignant de l'ISDER Tibachi a déclenché une grève. Pourquoi, Julien?
Écoutez, la grève a été déclenchée mardi soir au terme de la paye du mois de décembre 2004 à l'ISDER même. En fait, il s'agit d'un coup de colère après avoir constaté que la question de l'augmentation qu'ils attendaient depuis environ 6 mois n'était pas réglé par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire, bien sûr celui du budget et des finances.
Alors, dites-nous, Julien, comment les enseignants de l'ISDER Tibachi expliquent-ils le fait qu'ils n'aient pas bénéficié de cette majoration des salaires telle qu'initiée par le gouvernement des transitions?
Écoutez, Walter, ce qu'il faut d'abord noter, c'est que la décision du gouvernement des transitions prenait cours en juin 2004. Le gouvernement, disais-je donc, avait prévu la majoration en 2 paliers pour reprendre l'expression, je voulais dire, des enseignants, c'est-à-dire une majoration en 2 tranches. La première tranche constitue presque le double du salaire habituel payé pour la première fois au mois de juin 2004. Il s'est fait malheureusement pour eux que lorsque les fonds sont arrivés pour la paye de juin 2004, l'ISDER a constaté que son enveloppe n'avait pas augmenté, d'où la première réclamation. Aujourd'hui, ce que l'on peut retenir, c'est que le montant alloué à l'ISDER est d'environ 634 000 francs congolais, mais l'institution reçoit seulement 108 000 francs congolais et manque à gagner de l'ordre de 525 000 francs congolais par mois de juin jusqu'à ces jours.
Julien Yamoni, quelle explication avez-vous reçue des autorités de l'ISDER Tibachi?
J'ai effectivement tenté de joindre les autorités académiques. Un membre du comité de gestion m'a fait savoir qu'il s'agit, d'après lui, d'une erreur matérielle qui se situerait au niveau du ministère des Finances ou du budget. Et cette erreur continue donc 6 mois après.
Cela suffisait-il pour que les enseignants décident de laisser tomber la craie?
Oui, bien sûr. Ils ont attendu d'avoir la paie du mois de décembre 2004 qui vient d'être payée ce mardi dernier. Et juste après avoir constaté que rien n'a changé malgré les nombreuses réclamations auprès de la hiérarchie, ils ont donc décidé de laisser d'abord la CRE en attendant que la situation soit régularisée. Et je vous propose tout de suite d'écouter le porte-parole du groupe d'enseignants, le chef des travaux Moulumba Mandé.
C'est depuis juin 2004 que le nouveau barème alloué à l'enseignement supérieur universitaire a été appliqué. Et depuis juin jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais touché ce salaire. Donc l'ancien taux qui est très très modique. Nous avons réagi par une lettre qu'on a adressée à la hiérarchie. La hiérarchie a réagi aussi à son tour par le biais du président de notre conseil d'administration, professeur Mpey, que ce salaire allait être payé au mois d'octobre. Nous avons attendu, nous avons repris le chemin de l'école, mais curieusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien touché. Et tout à l'heure, là, nous venons de toucher l'ancien taux, qui est pour le chef de travaux, par exemple, de 20 000 francs congolais. Nous avons trouvé que ça, ce n'est pas normal. Alors que à l'ISP, ici à côté, on a toujours touché cet argent depuis juin jusqu'à présent. Et nous avons réalisé des arriérés d'ordre de 6 mois, et ça ne peut pas se concevoir.
Et voilà donc Monsieur Moulumba Mandé, chef des travaux, porte-parole du groupe d'enseignants de l'ISDER Tibachi, enseignants en grève depuis mardi. Julien, est-ce que vous avez peut-être des informations sur la durée de cette grève?
Je ne sais pas exactement. Il me semble que ces enseignants grévistes n'ont pas déposé une lettre de préavis des grèves. Un membre du comité de gestion de l'ISDER a estimé que tant qu'il n'y a pas de lettre de préavis, ceux qui seront absents seront considérés individuellement comme absents. Et je vous propose d'écouter une autre réaction d'un enseignant. Il s'agit de l'ingénieur Félicien Kalala.
Nous demandons à les autorités qui nous gèrent, c'est-à-dire celles de l'ISDER, les autorités provinciales et national, de faire un effort pour nous faire rentrer dans nos droits, c'est-à-dire de bénéficier tout notre argent depuis juin jusqu'à ce jour. Nous sommes des enseignants, nous avons des familles à supporter et nous avons toléré cette situation durant 6 mois. Vous savez que même la patience a ses limites. Vous imaginez depuis 6 mois la situation n'est pas trouvée, alors vous voulez qu'on fasse quoi? C'est-à-dire ils n'ont pas fait les démarches, parce que 6 mois durant, nous n'avons pas touché notre argent. Nous leur reprochons la lenteur, nous leur reprochons le manque de suivi dans l'application de ce barème. Bon, nous sommes de l'ISDER. Nous ne voulons pas pénaliser ni l'ISDER, les étudiants. Mais nous voulons qu'il y ait des solutions. Nous reprendrons l'ISDER, les cours, lorsque la solution sera trouvée.
Voilà, c'était l'ingénieur Félicien Kalala, enseignant à l'ISDER Tibashi. Je rappelle que nous sommes là au Kassai occidental. Julien Nyamouni, on parle beaucoup de problèmes de salaire. Ce n'est pas une situation unique à l'ISDER Tibashi, à d'autres institutions d'enseignement aussi bien primaires, secondaires que supérieures, voire universitaires, qui connaissent les mêmes problèmes. Mais en termes de production, c'est-à-dire de l'impact d'une institution technique, comme c'est le cas de l'Institut supérieur de développement rural. Est-ce qu'on peut compter des cadres qui sont sortis de cette école ou de cette institution et qui sont compétents et dont on a vu les fruits sur le marché de l'emploi?
Oui, et personnellement, Walter, c'est difficile de donner une certaine appréciation, je dirais objective, en termes de compétences des cadres qui sont sortis de cette institution. Ce que je sais, c'est que c'est une institution qui fonctionne depuis 22 ans. D'après les informations que j'ai eues, il y a bien des cadres sortis de l'ISDER qui travaillent dans les différentes institutions de la place. Je pense que s'ils n'étaient pas compétents, on ne les trouverait pas dans certaines institutions sérieuses, à l'image, je peux prendre le Caritas International, où il y a un certain Alexis Kande Kasunga qu'on devait en principe avoir dans cette émission, et peut-être qu'il serait déjà au service de sécurité, et peut-être qu'avant la fin de l'émission, on l'aura. C'est l'un de ceux qui sont sortis donc de l'ISDER, et donc un prototype des cadres que cette école a mis sur le marché de l'emploi, et j'espère que vous allez donc l'interroger avant la fin de cette émission.
On l'espère aussi, parce que c'est le plus important. À quoi ça servirait dans ce cas de continuer à payer des enseignants, si vous voulez, il faut dire le mot, dès lors qu'on ne sait pas voir les produits finis sur le terrain pour le développement de la province. Rappelons que les deux semaines passées, on parlait de l'état d'extrême pauvreté à Kananga, dans certains milieux du Kassai occidental, alors que les techniciens en développement rural, les TDR, sortis de Tibashi, devraient faire la différence. C'est une brèche qu'on ouvre. Mais revenons, Julien Nyamouni, à cette situation de grève. Est-ce que les autorités académiques mènent des démarches pour débloquer la situation? Parce que, selon ce qu'on a entendu de la part des enseignants, ils ont fait un bloc pour continuer vraiment la grève.
Oui, Walter, avant de répondre directement à votre question, mais faisons un tout petit peu un pas en arrière par rapport à la dernière préoccupation que tu viens de soulever. Il faut dire que effectivement, vous allez poser un certain nombre de questions au directeur général qui est sur place, certainement pas pour vanter son institution, mais en fait expliquer son impact sur le plan de développement. Et c'est vrai qu'il y a, bien sûr, d'après ce qu'il m'a laissé entendre ici, c'est qu'il y a il y a plein de cadres qui sont quand même compétitifs sur le marché et qui travaillent dans le développement. Mais par rapport à toutes ces préoccupations, je crois que vous allez poser des questions précises au directeur général qui est juste à mes côtés. Ceci dit, pour votre question, les autorités disent avoir mené des démarches. En revanche, et visiblement, certains enseignants ont des doutes sur les efforts que les autorités académiques auraient entamés pour faire aboutir les dossiers. 6 mois après, on peut justement se poser la question si les démarches ont été faites. Je crois que c'est là le véritable problème.
Est-ce qu'il y a quand même peut-être des signes ou des traces qui montrent les efforts des autorités académiques à décanter la situation?
Oui, de toute façon, je suis tombé sur un nombre important de documents qui prouvent que les responsables du comité de gestion ont mené quelques démarches et ils ont adressé un mémo aux autorités provinciales dans lequel ils sollicitaient même un prêt remboursable pour régler cette situation. Il y a eu des contacts avec le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Et c'est lui d'ailleurs qui parlait d'une erreur matérielle. J'ai vu aussi par exemple la lettre du conseil d'administration de l'Institut supérieur technique qui aborde cette même question du complément des salaires des enseignants. Malheureusement, malgré ses efforts, la solution n'a pas été au rendez-vous. Mais la question des enseignants vaut aussi son pesant d'or. Comment une erreur soit-elle matérielle peut-elle demeurer indéfiniment?
On va avoir peut-être des réponses tout à l'heure avec M. l'abbé Modeste Boukessa, directeur général de l'ISDR Tibachi. Julien Nyamweni, laissez-moi vous dire merci pour ces précieuses informations et cet excellent travail. Bonne journée à Kananga.
Merci Walter, au revoir.
À bientôt. Le thème dont nous parlons aussi, c'est nous parlons de la grève qui a été déclenchée par des enseignants de l'Institut supérieur de développement rural, ISDR Tibachi, Kananga. Nous sommes au Kasaï occidental. Nous avons en ligne depuis Kananga Monsieur l'abbé Modeste Boukessa. Bonjour Monsieur l'abbé.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'ISDR Tibachi. La première question que je vous pose, à quand la solution aux revendications des enseignants de l'ISDR Tibachi?
Donner la précision, c'est très difficile, mais j'ai contacté les conseils d'administration. Le permanent m'a signifié qu'on est en train de faire le calcul pour introduire les listes de manière à avoir les compléments qu'on devrait avoir pour le mois de décembre. Alors, le mois de décembre a été payé de la même manière avec l'ancienne enveloppe dans toutes les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire, mais il y aura un complément selon la déclaration faite par les conseillers d'administration que j'ai joint par téléphone.
C'était au téléphone, vous n'avez pas encore de lettre officielle confirmant cette information?
Les professionnels, non, parce que nous avons écrit quand même pour signifier qu'il y avait un mouvement d'agitation auprès des enseignants, mécontents de la situation, du fait que, selon les réactions du président, les montants qu'on devrait avoir qui étaient alloués dans l'application du barème des primes institutionnelles et du personnel scientifique de l'ESU, qui devrait entrer en vigueur à partir du mois de novembre 2004, mais la lettre a été écrite le 20 décembre 2004. Alors, nous pensons que dans l'espace de 10 jours, ce n'était pas possible. Nous espérons attendre ça pour le mois de janvier. Alors, oui.
Voilà, Monsieur l'abbé, directeur général, quel pourrait être l'impact de cette grève des enseignants sur le calendrier académique de l'ISDR Tibachi?
L'impact sera tout à fait fort négatif et douloureux, surtout pour les parents qui sont les premiers partenaires de l'Institut, hein, qui ont financé les études de leurs enfants jusqu'en séjour. Alors, le fait que les enseignants laissent l'attrait peut provoquer, n'est-ce pas, des circonstances assez douloureuses pour la plupart des familles, et l'année académique que nous voulions terminer en beauté risque d'être bousculée plus tard.
Mais ça fait au moins une vingtaine de promotions de TDR qui sont sorties des Tibachi, parce que c'est à peu près 20 ans, 22 ans que l'ISDR Tibachi fonctionne. Y a-t-il des œuvres locales qui portent la signature des techniciens de développement rural sortis des Tibachi, M. l'abbé?
Je pense qu'on va signifier, n'est-ce pas, nous avons formé énormément de TDR en techniciens en développement supérieur et des licenciés qui travaillent ici dans la ville et dans les zones rurales. La plupart d'entre eux sont des responsables des organisations non gouvernementales de développement au sein de notre province et ailleurs. Donc, c'est vraiment un investissement assez convenable. Maintenant, avec les relations qu'on a eues, parce que le ministère avait demandé d'avoir le partenariat avec l'extérieur, donc il y en a qui, d'une manière générale, ont réussi à avoir une bourse d'études pour aller, par exemple, à Louvain-la-Neuve, continuer la formation. Et le matériel que nous recevons comme outil pédagogique pour soutenir pratiquement la formation et compléter la formation de nos apprenants, hein, ça vaut quand même la peine comme investissement, n'est-ce pas, pour compléter cette information-là, les formations. Alors, ces partenaires vont être découragés aussi quand ils apprennent que les étudiants n'étudient pas, qu'il y a une situation de grève. Je prends un exemple, le Collège Boréal du Canada, par exemple, il doit venir en février, encore une fois, pour un complément d'information, tenir des séminaires, former les apprenants qui sont chez nous, hein, comme renforcement des capacités. Même l'IPDD, l'institut avec lequel on est en contact, n'est-ce pas, avec beaucoup d'éléments positifs pour l'ISR Tibachi, Par exemple, les déplacements à l'étranger, les financements des publications dans les domaines de la paix, de la démocratie et le développement, des équipements destinés à moderniser la recherche et l'enseignement de l'administration dans notre institution, formation destinée à renforcer les capacités. Tout ça risque d'être de tomber en brèche quand ils apprennent que les étudiants ne sont pas à l'école.
Mais de toute façon, ceux qui sont très matinales au Canada ou aux États-Unis sont en train de nous suivre maintenant en direct sur Internet. Mais quand même, Monsieur Labbé, on a fait il y a 2 semaines quelques émissions sur la situation d'extrême pauvreté dans laquelle vivent des habitants à Kananga. C'est un peu paradoxal alors que il y a un ISDR qui fonctionne depuis une vingtaine d'années dans la province.
Exactement. L'impact a rencontré suffisamment de goulots d'étranglement. Par exemple, prenons sur les cas de l'informatique. C'est bien, on voudrait vulgariser l'informatique ici à l'enseignement supérieur universitaire, voire même au niveau des écoles secondaires. Le matériel nous est parvenu, un tas d'ordinateurs qui sont sur place avec les onduleurs et tout ça. Mais tout simplement par les déficits énergétiques, par exemple, nous ne savons pas utiliser ce matériel. Donc c'est une contrainte qui fait que eux, ils savent, à cause de la pauvreté, nous sommes en train de lutter contre la pauvreté, mais ça ne nous réussit pas à cause des contraintes que nous ne savons pas directement lever, parce qu'elles ne dépendent pas de nous.
Et voilà la réponse que nous venons d'avoir. Une toute dernière question, quelles sont les sections qui sont organisées à l'ISDR Kibashi?
À l'ISDR Kibashi, nous avons organisé la section, la première, c'est organisation sociale. Mais avec la réforme du programme, il y a également la planification, il y a la gestion des projets et de l'environnement, il y a l'administration rurale et voire même les techniques rurales. Donc nous avons 5 options à organiser.
Ben voilà, merci beaucoup. Ces informations peuvent peut-être orienter des finalistes du secondaire qui voudront bien prendre cela comme cursus supérieur ou universitaire. Monsieur l'abbé Modeste Bukassa, je rappelle aux auditeurs que vous êtes directeur général de l'ISDR Kibashi. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et vous souhaite plein succès d'abord dans la solution aux revendications de vos enseignants et ensuite dans la réalisation de tous vos projets.
Merci beaucoup, c'est vous que je remercie.
Merci, au revoir, monsieur l'abbé.
Au revoir.
Ok, puis action, le dernier sujet de ce magazine concerne ce qui vous touche aujourd'hui si vous habitez les sites érosifs, aussi bien à Kinshasa qu'ailleurs à travers la République démocratique du Congo, dans le Kasaï, dans la province orientale, dans le Kivu, au sud Kivu notamment, on a vu des situations aussi terribles que celles-là. Avec la saison des pluies, il y a beaucoup de familles qui se retrouvent inondées ou alors qui retrouvent leur maison emportée par les éboulements des terres. À Kinshasa par exemple, ces érosions touche un grand nombre de quartiers comme Kingabwa, Unikine, mais celles de Mataba, dont la commune de Ngalioma, sont plus réputées par l'ampleur. Ces têtes d'érosion sont parmi les plus meurtriers ou les plus dangereux à Kinshasa. Mais cela fait beaucoup d'années que les habitants de ces quartiers et d'autres quartiers environnants vivent donc dans une incertitude, à la limite, dans l'insécurité. Et Jolie Malivoto est rentrée sur le site, parce qu'on est dans la saison des pluies, pour aller constater ce qui se passe, et notamment sur le site de Mataba. Voyez la chaussée de Matadi, vous allez vers l'Ipen, soyons plus proches, et au niveau de Saint-Sacrement, c'est cette partie-là déjà. Hein. Dans les images, vous les avez. Jolie Malivoto, qu'est-ce que vous avez constaté?
Oui, comme on a toujours dit et on continuera à le dire, les érosions menacent l'avenir de nos villes et pourquoi pas de nos cités. Il y a un danger permanent pour ce problème. Alors pour la population qui habite aux environs de ces érosions, il est difficile de déterminer les agents causaux de cette catastrophe. Sur l'avenue Akula par exemple, vers le palais de marbre dans la commune de Ngalima, les gens attribuent ça à la pluie qui ravage, emporte tout à son passage, des maisons, des meubles, des objets précieux et autres, elle fait même des morts à son passage. Alors les autres disent que cette érosion est surtout due à la mauvaise canalisation des eaux qui viennent de toutes les villas de ma campagne. À ce sujet, je vous propose de suivre le témoignage de quelques victimes que j'ai rencontrées sur place.
Érosion où il y a été racine pour le bandit depuis car maille matériel du couloir d'art à Watango et Mati et Kiti à Wanase
Maïe Outarawat.
Maïe Oye Outaka na palais du Mable, et Outaka justement côté à Est-Nord, et Outaka côté à Delvaux. Oye nyon son ambassade oye zali awan. Oye nan zoye biso toza shiko na sima na ambassade zanzina zingao. Men lelo oye so ye zoko kende. Na kanisiki na ba konziyo so ba zanzina zingao pe ba okende. Bon, erosion oyo ezali mayi nde ezo provoke erosion. Mayi ezali ndenge nini. Ba mayi yango ekata na kate. Or ke terase soki osali terase esengeli ke mayi ya terase tango ezo kokule. Esengeli ke mbula soki ebeti mayi ekoti na terase. Soki pe mbula esili donke mayi wana esengeli katana. Me banda kaka terase osalema mayi ekata na kate. Me mokonzi ba boka miso wana batala pembela batu. Batu awa bakunda ma petete nde ba ya tu ebite soki goza ndenge nini.
Ene provoke erosion eza mayi. Donc, maman, il y a ce qui est à côté de ma campagne qui est à l'écolo. Et on a les zoya, le quoi terrasse comme un boucher. Donc, il y a beaucoup qui terrasse. Et on a une petite pour terrasser boucan.
Depuis quand?
Ça fait même un mois. Donc, vous faites pas ça, si on a malinga, tu es un peu. Donc, il y a beaucoup qui m'a parlé, il va parler de belles boucan.
Moi, passé, je suis un bouton, je suis un bandit, je suis un bandit, je suis un bandit, je suis un bandit, je suis un. Tuzaki na bana na ndaku na papa na situki kaka boi mai bandi kukota na ndaku mera simibukani na problem nini erosion esalemi bande na weza ba mai wezo utu basite verti peni delvo mai nyoso wane zo kitelefo na terasu weza na se ya pale de marbre na situki kaka mai bandi kukota na ndaku we na bimisi bana na biloko piso na papa tuzo we la biloko tuzo kota waba voisin bon zaki vraiment mwaete esika kula lezati neti nana bana siko tuzo la waba voisin tisiko. Alors gouvernement a non les cambo et quoi ceux qui battent qui cabre rose on dégage son matériel que des petits côtés parler des morts beaucoup donc vous allez mal à monter.
Mais voilà des témoignages de quelques habitants rencontrés sur place. Je dis à nos auditeurs que nous avons en studio Monsieur José Makila, ingénieur José Makila. Il n'est pas ingénieur. On va corriger ça tout à l'heure. Mais Monsieur José Makila, qui est administrateur délégué général de l'Office des voiries et drainages, OVD, il est ici dans nos studios pour répondre à nos questions et aux vôtres si vous appelez au 081-890-6890. On reviendra à lui tout à l'heure. Jolie Malivoto, on vient d'entendre ces témoignages. Que font les jeunes gens du quartier pour prévenir ces érosions? Ils ont demandé que le gouvernement aide, mais en attendant.
Oui, tout d'abord, ces jeunes gens souhaiteraient que le gouvernement amorce les travaux entamés il y a quelques années sur les différents sites. Mais en attendant la réaction des autorités compétentes, dans certains quartiers par exemple, les jeunes ont pris des initiatives personnelles pour lutter contre l'érosion. Ils ont planté des arbres tout autour des places érosives et les ont entourés des sacs remplis de sable. À Devo par exemple, sur le site Mataba. On a vu Foleko qui s'y emploie, elle a planté des arbres anti-érosifs justement pour lutter contre cette catastrophe. Mm-hmm. On écoute quelqu'un de Foleko que nous avons rencontré.
Bon, nous sommes les gens de la Foleko. Nous produisons des plantes anti-érosives. Nous les utilisons dans les érosions pour stabiliser l'érosion. Nous produisons les plantes. Lorsque les plantes atteignent une mesure de 25 à 30 cm, nous descendons dans les érosions pour les planter. Ce sont des plantes qui nous aident et surtout que dans notre quartier, il y a beaucoup d'érosion. Alors grâce aussi à ces plantes, que vous voyez que notre érosion est stabilisée.
Quelles sont ces plantes?
Bon, nous avons beaucoup d'espèces. Nous avons l'Acacia siamea, le vétiver, Acacia mangium, Acacia auriculformis, costis, Albis et Lebec, et ainsi de suite. Donc nous avons beaucoup d'espèces ici. Ce sont des plantes qui ont des racines plus denses et plus robustes aussi, qui peuvent atteindre 3 à 4 mètres. Alors grâce à ces racines, ils stabilisent la terre. Une érosion sans de plantes, si l'érosion est nie, alors cela aussi provoque beaucoup d'écoulement. Mais si l'érosion est protégée par des plantes, lorsque peut-être la pluie tombe, alors grâce à des plantes, il n'y a pas d'écoulement. Mais s'il n'y a pas de plantes, il y aura toujours l'écoulement du sol.
Voilà les explications d'un activiste de la FOLECO, Fédération des ONG laïques, à vocation économique du Congo. À part la FOLECO, Jolie Baïvo, est-ce que vous avez peut-être retrouvé d'autres personnes, d'autres sociétaires qui essaient de travailler sur la stabilisation du site de Mataba?
Oui, sur le site Mataba, nous avons rencontré quelques agents de l'OVD qui nous ont laissé entendre qu'ils ont un projet justement pour lutter contre les érosions. Parce qu'il y a quelques jours, une délégation de l'OVD a effectué une descente sur le terrain aux différents sites érosifs de Kinshasa et à l'intérieur du pays. Alors cette visite s'inscrivait dans le cadre d'étudier l'ampleur de la situation. Et selon les études réalisées sur terrain par l'OVD, ils disent que dans 20 ans, si le gouvernement ne fait pas attention, la ville de Kinshasa risque de subir un cataclysme sans précédent. Et l'érosion risque d'engloutir pas seulement la ville de Kinshasa, mais également toutes les villes à l'intérieur du pays. Alors, je ne sais pas, mais je préfère que l'ADG de l'OVD nous donne toutes les explications.
Nous parlerons tout à l'heure avec M. José Makila. Je rappelle qu'il est en direct ici en studio. Les auditeurs appellent déjà. Il y a des questions qui arrivent. Merci à Ramon Mambou, Rita Mvoivoi. Nous avons noté vos questions tout à l'heure. Dans quelques instants, on va les soumettre à l'ADG qui est sur place. Jolie, merci beaucoup d'avoir laissé parler ces personnes qui sont victimes de ces érosions et qui espèrent avoir des solutions d'ici là. Merci Jolie.
Merci Walter.
Okapi, le Congo à l'écoute.
Et voilà, nous y sommes, nous vous écoutons. Monsieur José Makila, bonjour.
Bonjour, monsieur Walter.
Merci d'être venu, on vous a pris à pied levé, mais la question est tellement importante que nous avions vraiment besoin du numéro 1 pour répondre à quelques-unes de nos questions. La première que je vous pose, elle est simple, celle que tout le monde se pose. Pourquoi on ne stabilise pas définitivement les grands sites érosifs de Kinshasa?
Non, dire qu'on ne stabilise pas définitivement les grands sites érosifs de Kinshasa, c'est faux. Quand un site est traité, il est stabilisé. Mais on ne doit pas se contenter de la stabilisation. Il faut l'entretenir, il faut curer le collecteur. Il faut que les habitants qui sont tout autour du site érosif puissent respecter les consignes données par les constructeurs, hein. Par l'OVD, par exemple, admettons qu'on stabilise un site érosif. Je vais vous donner un exemple. Vous allez au camp Badiading. Il y a les militaires qui avaient effectué des travaux fantastiques sur ces sites. Mais allez-y aujourd'hui, les gens construisent tout autour du collecteur. Ils cherchent à ce que le collecteur soit dégradé. Donc c'est question d'éducation. Une fois un site érosif a subi des travaux, le collecteur est descendu jusqu'au point le plus bas. Je vous dis sincèrement que le site est maîtrisé. Et encore, on arrive à planter des bambous et qu'on sort. Mais à la grande surprise des autorités, vous verrez les gens venir envahir en laps de temps cet endroit avec des constructions anarchiques. Comment voulez-vous que l'ouvrage puisse tenir pendant qu'on a dénudé les terrains, pendant qu'on est en train de couper les gabions, pendant que des fois on est en train d'enlever les ciments qui sont là? Nous tendons sans faute vers la dégradation des travaux.
Mais comment réagissez-vous à ce que vous avez entendu tout à l'heure, si certaines personnes victimes des érosions qui demandent que rapidement qu'il y ait quelque chose qui soit fait, de l'OVD et du gouvernement?
Eh bien Walter, je viens d'attendre tout à l'heure quelques réactions et je les remercie d'abord. Ils le disent que s'il y a un site érosif qui se crée là-bas, c'est parce qu'il n'y a pas une canalisation d'eau. Mm-hmm. Et pourtant, quelque part, j'ai attendu d'un auditeur disant que oui, il y avait un collecteur, il y avait un caniveau, mais le caniveau a été bouché. Pourquoi le caniveau a été bouché? Par manque d'entretien. La population doit savoir et comprendre qu'on ne peut pas se servir d'un caniveau comme une poubelle. Donc un caniveau, c'est pour le passage des eaux. Donc laisser les eaux couler sans obstacle. Si la population comprend cela, on ne peut pas arriver à des situations pareilles. Donc, en un mot, je dirais, l'entretien des caniveaux, le passage des eaux sans obstacle, ceci aussi peut aider à ce qu'on n'arrive pas à de pareilles situations.
Monsieur l'ADG de l'OVD, voici une question de Rita Mvoivoi, apparemment très en colère contre l'OVD. Il dit, vous dites office de voirie et drainage, lui, Rita Mvoivoi, aurait honte à votre place, parce que lui, il est convaincu que même là où vous habitez, il y a des caniveaux pleins, et tout cela ne vous dirait rien apparemment. Rita Mvoivoi constate que Kinshasa est très sale et que si vous ne pouvez rien faire pour curer tout ça, Rita Mvoivoi suggère que l'OVD soit fermé parce que selon lui, l'OVD ne servirait à rien dans ce cas.
Je comprends sa colère parfaitement. Elle a raison, elle a le droit parce que l'OVD est une entreprise de l'État. Elle a raison parce que si l'État met à la disposition de l'OVD les moyens conséquents, je pense que nous serons en mesure de faire le curage dans toute la ville. Et encore que la ville n'appartient pas à l'OVD, il y a une autorité de la ville. Les bourgmestres sont là. À un certain moment, je me rappelle, quand on avait le ministre de l'Intérieur, M. Nzoku,
Miranzoku.
Oui, il avait donné un mot d'ordre à tous les bourgmestres. Il parlait même de la carte jaune, carte rouge, ainsi de suite. Et on avait vu les gens culer les caniveaux. On n'avait pas constaté assez de dégâts pendant la saison pluvieuse. Mais si la population elle-même ne se prend pas en charge en disant « Écoutez, ces caniveaux passent devant ma porte et que je ne dois pas me servir de ces caniveaux comme poubelle », je pense que Rita ne se mettrait pas dans tous ces états. Et Madame Rita, j'essaie de rappeler, doit savoir que ces travaux ne se font pas comme ça, il faut un devis. Rentrer dans des caniveaux, il faut acheter des bottes, il faut acheter des tenues, il faut prendre des pelles.
Et vous n'avez pas tout ça?
Il y a des moments où on n'en a pas, disons les choses très sincèrement.
Comment est-ce possible?
Ça, ce sont des questions que vous pouvez poser aux autorités. L'OVD, c'est une entreprise de l'État qui, apparemment, les gens disent c'est budgétivore, mais nous avons, qu'est-ce que l'OVD fait? L'OVD ne fait que des services, c'est un service technique de l'État qui exprime les besoins acquis des droits. Mais si aujourd'hui on ne met pas à la disposition de l'OVD tous les moyens nécessaires, tous les moyens requis pour sa politique de travail, comment voulez-vous que l'OVD aille travailler sans aucun moyen?
Si un chauffeur lui demande de déplacer des personnes sur une distance de 10 km, qu'on ne lui donne pas du carburant dans son véhicule, est-ce que ce chauffeur va accepter de prendre le véhicule?
Je ne pense que pas.
Mais pourquoi alors vous continuez à présider l'OVD alors qu'on ne vous donne pas tous vos moyens?
Mais non, je ne dis pas qu'on ne donne pas tous les moyens. Vous savez, la tâche est tellement colossale. Cette ville est à reconstruire. Tout le monde sait que cette ville est à reconstruire. Et le caniveau, le curage des caniveaux, ce n'est pas, on ne peut pas le faire une fois par an. Le curage des caniveaux, c'est un travail, c'est une opération perpétuelle, continuelle. Qui ne peut pas s'arrêter, ça dépend des endroits. Si vous prenez par exemple la commune de Matete, en principe, les caniveaux doivent être curés chaque mois parce qu'après les grandes pluies, toutes les eaux qui viennent de Kisenso, qui ramènent du sable, qui déposent dans les collecteurs ou les caniveaux de Matete, alors ces sables doivent sortir immédiatement. Il faut des moyens. La population est consciente. Il nous faut de moyens. Je ne dis pas qu'on a laissé l'OVD dans la rue qui fait la figure de parents pauvres, non. Mais la tâche est tellement grande qu'on ne peut pas tout faire à la fois.
Monsieur l'ADG, la question de Raymond Mambou de Kinshasa. Pourquoi quand vous curez des caniveaux, vos gens, je veux dire vos techniciens, laissent encore tous les déchets juste à côté, après une pluie, tout rentre dans les caniveaux? Pourquoi ne pas trouver un moyen pour dégager directement ces déchets et refaire l'entretien de temps en temps?
La population doit comprendre qu'il y a deux sortes de déchets. Il y a le déchet liquide et le déchet solide. Quand nous curons le caniveau, tout ce qui sort du caniveau reste encore liquide. On doit le laisser sécher. Mais si par malheur on a curé aujourd'hui et qu'il a plu, en attendant 2, 3, 4 jours pour pouvoir les enlever, où est la faute jusque-là? Nous sommes chargés. Nous ne gérons pas les déchets solides.
Qui gère les déchets solides?
C'est PENA qui gère les déchets solides. Programme national d'assainissement, que les gens puissent comprendre ça. Quand les gens attendent, apprennent voirie, c'est peut-être l'ignorance. Voirie, ce sont les voies urbaines. Ce ne sont pas des déchets, ce ne sont pas des ordures. Les ordures ne sont pas le problème de l'OVD. L'OVD s'occupent réellement à gérer les eaux usées et non les déchets ni la poubelle.
Donc, on constate quand même que c'est certains caniveaux qui sont curés, oui. Presque régulièrement, je veux le dire, c'est des grands caniveaux. On peut voir la rivière Lagombé, les calamos autour de ça, mais les petites ruelles, les rivières qui s'enfoncent dans les quartiers, dans les avenues, ne le sont pas.
Ça, c'est vrai. Tout ça, c'est un problème de moyens. C'est un problème de moyens. Le curage, il y a deux sortes de curages. Il y a le curage manuel et le curage mécanique. Mais le curage mécanique, il faut avoir l'engin qui s'appelle Poquelin. Actuellement, depuis qu'on est à l'OVD, ça fait plus de 2 ans, nous avons un Poquelin là-bas qui est en panne, qu'on a introduit, réintroduit des dévis jusque-là. On n'est jamais servi. Mais s'il faut que l'OVD, qui est en passe de moyens, doit aller louer les Poquelins pour faire le curage mécanique, vous voyez les charges que nous avons. Nous ne pouvons pas, faute de moyens, et on ne peut pas tout jeter sur le gouvernement non plus. Vous savez que nous venons de sortir de la guerre, il y a beaucoup de priorités. Maintenant que nous avons un programme avec les bailleurs de fonds, nous essayons de travailler, tant soit peu. Mais posez-vous seulement la question, allez sur Kasavubu, à la hauteur de Kitambo, là où les caniveaux sont nouvellement construits. Regardez ce qui est dedans, qu'est-ce que vous allez constater? Que ces caniveaux sont déjà pleins de déchets, et ce ne sont pas des déchets de ruissellement, non. Les gens, sciemment, prennent les déchets de chez eux à la maison et viennent verser dans le caniveau.
Là, c'est la responsabilité de tous ceux qui vivent autour des caniveaux, je vous le concède, et c'est vrai. Faire un autre travail, c'est-à-dire former ces gens, les sensibiliser à utiliser des poubelles. Est-ce que l'OVD, qui est conscient de ce problème, ce manque de sensibilisation des habitants, essaie de temps en temps de leur dire, il faut que vous ayez la culture de la poubelle chez vous, au lieu de déverser tout ça dans les caniveaux?
Vous savez, chacun de nous a ses attributions.
Mm-hmm.
Ça, ce sont les attributions de PENA que je ne peux pas m'ingérer. Moi, je vous ai dit que je m'occupe de la gestion des eaux usées. Donc, quitte à PENA de faire la vulgarisation, de conscientiser. Si bien que ça me pénalise, moi.
Parce que ça me fait comme si vous ne faites rien.
Voilà, mes attributions ne vont pas au-delà de ce que je suis en train d'expliquer. Donc, vous aurez peut-être l'occasion d'écouter le responsable de PENA qui va vous donner certainement. Cela va tourner toujours autour des moyens.
Mais en définitive, qu'est-ce qu'on va devenir si tout le monde doit dire qu'il n'y a pas les moyens? Alors, pour revenir à l'OVD, de quoi avez-vous besoin pour mieux faire votre travail, monsieur l'ADG?
L'OVD a la technicité. C'est l'organe technique du gouvernement. Au fait, pourquoi on a créé l'OVD? L'OVD a été créé pour mener des études sur les voies urbaines et l'assainissement. Quand on parle de l'assainissement, on voit les érosions, on voit les caniveaux et consorts. C'est ça que nous faisons. L'OVD est là pour exécuter et faire exécuter des travaux de réhabilitation des routes dans des centres-villes, des luttes anti-érosives. C'est ça le sens fondé de l'OVD. Mais qu'est-ce que nous constatons? Il est vrai qu'à l'époque, quand il y avait un peu plus de moyens, quand les coopérations bilatérales, multilatérales marchaient très bien, nous avions des dons, nous avions des subventions, parce que l'OVD vit à 100% de la dotation de l'État, parce qu'il ne génère pas de recettes. Mais du moment où vous devez travailler 24 sur 24, pas en principe, l'OVD est là, pour intervenir en cas où il y a le nid de poule qui
le il y en a beaucoup à Kinshasa.
Une tête d'érosion commence à combattre immédiatement. Mais étant donné que les moyens disponibles ne sont pas là, voyez, nous nous trouvons dans les possibilités. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Posez-moi une question.
Avec les moyens de bord, qu'est-ce que vous faites?
Nous menons les études. Nous nous cantonnons, permettez-moi l'expression, mais on se contente de mener des études et les mettre à la disposition de l'autorité, quitte à l'autorité d'en faire usage. Mais nous sommes dans le grand programme des PEMUR. Le PEMUR, vous voyez que c'est le seul secteur qui évolue.
Le programme multisectoriel
d'urgence et de réhabilitation. Vous voyez avec la Vélique à Savoubou, ça c'est le PEMUR dans le secteur de l'OVD. Vous voyez avec l'érosion de l'œuvre de Selemba qui est stabilisée, ça c'est le travail de l'OVD. Alors, Pour l'instant, il faut que je fasse comprendre à la population que Kinshasa est une zone collinaire, c'est-à-dire nous habitons sur des collines. Arrêtez qu'on arrête avec des constructions anarchiques, qu'on respecte les normes urbanistiques.
Là, c'est avec vos collègues de l'urbanisme et habitat.
Voilà, qu'on respecte les normes urbanistiques. Quand vous construisez n'importe comment sur des zones collinaires, il n'est que normal que vous rencontrez des érosions partout. Les érosions de Kinshasa, vous savez combien de sites érosifs nous avons à Kinshasa? Nous avons 54 sites érosifs et nous avons plus de 200 têtes d'érosion. Cela veut dire quoi? Un site érosif peut contenir 4, 5, 6, 10 têtes. Mais qu'est-ce qui fait que nous ayons plus de têtes d'érosion? C'est parce que les gens construisent n'importe comment. Ne respectez pas les normes urbanistiques. Quand on délude un terrain, mais on donne la chance à ce que cet endroit puisse créer une tête d'érosion. Mais avant que la population puisse nous reprocher, et qu'elle se reproche d'abord, qu'elle prenne conscience de ce qu'elle est en train de faire.
Monsieur l'ADG José Makila, ADG de l'OVD, était notre invité pour Okapi Action. Et Okapi Action, c'est terminé vraiment pour aujourd'hui. Toute l'équipe des productions vous remercie d'avoir suivi et se réjouit de vous retrouver demain, 9h02, heure de Kinshasa, pour une autre aventure dans vos vies. Merci beaucoup, monsieur l'ADG. Juste un au revoir. On a plus le temps.
Merci beaucoup, Walter.
Nous allons continuer. On va organiser une autre émission pour rentrer en dans cette question.
Ok, merci beaucoup et bonne année, monsieur.
Merci, je vous les réciproque.